dans la première épître de Pierre. La première épître de Pierre au chapitre 2e et au verset 1er. Chapitre 2 de la première épître de Pierre. Et nous lisons chapitre 2 et le verset 1er. Donc c'est l'apôtre Pierre. Vous savez qui est l'apôtre Pierre ? Un des 12 que le Seigneur appelait. C'était un pêcheur. Justement, tout à l'heure, on parlait de pêcheur. Lui, il jetait le filet dans le lac de Galilée. Et Jésus lui a lancé cet appel. Eh bien, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et c'est vrai que cet homme a été un évangéliste formidable lors de son premier message, première prédication. 3000 personnes ont donné leur cœur à Jésus. Alléluia. Amen. Imaginez qu'il y ait 3000 sauvés dans un seul coup à Montpellier. Amen. Mais gloire à Dieu. Eh bien, voilà, Pierre a été un pêcheur formidable, eh bien, un évangéliste. Et il nous a dit, eh bien, voici ce qu'il écrit. 1 Pierre chapitre 2, verset 1er. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Juste une petite parenthèse là-dessus. Ce texte-là, ce premier verset, nous parle de croissance spirituelle. Vous avez goûté que le Seigneur est bon. Oui, Dieu est bon. Eh bien, il veut te faire grandir. Et vous avez vu le principe de la croissance. Pour bien grandir, il faut rejeter ce qui est mauvais, la malice, etc., et retenir ce qui est bon. Alléluia, c'est la sanctification. C'est comme ça qu'on grandit avec le Seigneur. Alléluia. Mais on poursuit parce que c'est à partir du verset 4 que nous allons appuyer notre pensée de ce matin. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Alors de lui, c'est Jésus, hein, de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu, par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Amen. Gloire à Dieu. Et je voudrais vous parler du Seigneur, bien sûr, de Jésus, de notre Sauveur, de notre Seigneur, en tant que, eh bien, il nous est dit ici, eh bien, de pierre angulaire. Alors, il y a un autre texte qu'on va prendre qui se trouve cette fois-ci dans l'Évangile selon Matthieu maintenant. Il est complémentaire, on lira plusieurs passages des Écritures, mais on va au chapitre 16e de l'Évangile selon Matthieu. C'est un passage important aussi. Matthieu, chapitre 16, verset 13. Voici ce qu'il nous est dit. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon Pierre, donc c'est le même Pierre qui a écrit la première épître, voilà, répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, on pourrait le traduire sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Je voudrais que nous puissions parler de Jésus en tant que rocher, en tant que roc. Je fais juste encore une nouvelle parenthèse afin que vraiment on se dégage un petit peu de ça. Le Seigneur dit, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Nous est-il dit, mais les mots sont vraiment, il y a un petit jeu de mots, parce que pierre c'est pétros, ça signifie une pierre, voilà, une pierre que vous pouvez tenir, que vous pouvez lancer, et le sur cette pierre, le roc, c'est Petra. Et lorsqu'on cherche dans quel sens il est utilisé ce mot, on trouve que c'est un rocher, une falaise. Vous voyez, quelque chose d'impressionnant. Ce n'est pas la petite pierre. Et il nous est dit de pierre, bien, ouais, toi, tu es une pierre, mais tu vas être fondé sur ce roc, vous voyez, ce rocher que je suis. Et d'ailleurs, lorsque le mot Petra, pour signifier roc, est utilisé, on parle du sépulcre qui est taillé dans le roc. Vous voyez, c'est la même chose. On parle également de la maison bâtie sur le roc, pas sur une petite pierre, sur le roc. Et lorsque, dans les épîtres, Paul parle de Jésus, il parle de lui comme étant un rocher spirituel, par exemple, eh bien, c'est le même mot, c'est le roc, c'est Petra, c'est cette pierre monumentale, eh bien, sur laquelle on peut bâtir sa vie. Alléluia! Amen. Et c'est justement le sujet que je voudrais aborder avec vous ce matin. Eh bien, c'est que, eh bien, il est ce rocher sur lequel l'Église peut bâtir sa vie, sur laquelle l'Église est bâtie, mais aussi sur, pour chacun d'entre nous, eh bien, bâtir nos vies sur la personne du Seigneur, la personne de Jésus. Et le Seigneur, je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il veut nous rendre intelligent, comprendre et nous dire mais qu'est-ce que ça veut dire bâtir sa vie sur le Seigneur ? Qu'est-ce que cela signifie ? Parce qu'il y a des mots riches là. C'est précis la parole de Dieu. Notre foi en Jésus-Christ, elle est précise. C'est pas une foi avec des contours mal définis, un peu nimbuleux. Je prends un peu de ci, je prends un peu de là. À partir du moment où on parle de Dieu et de Jésus, alors je prends. Non, pas du tout. L'Écriture nous dit c'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Nous avons besoin de discernement. Alléluia. Et nous avons besoin de la révélation de Jésus seul, amen. Et ici, il nous est dit, eh bien, que Jésus, j'ai noté les qualificatifs qui sont employés pour désigner Christ en tant que pierre, le rocher. Il nous est parlé de lui comme la pierre angulaire. Il nous est parlé de lui comme la pierre vivante. Il nous est parlé de lui comme la pierre choisie. Et il nous est parlé de lui comme la pierre précieuse, voyez. Et toutes ces choses vont nous parler de notre édification sur Christ. Qu'est-ce qui se passe lorsque je comprends que Jésus est la pierre angulaire dans ma vie ? Qu'est-ce qui se passe lorsque je saisis qu'il est la pierre vivante ? Qu'est-ce qui se passe lorsque je saisis qu'il est choisi, qu'il est précieux ? Alléluia ! Et tout cela va avoir des conséquences bénies pour ma vie, non seulement pour moi, mais également pour tous ceux et celles qui sont autour de moi. Alléluia ! Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous a appelés à nous édifier les uns les autres. Amen ! Vous savez, il y a parfois des personnes qui remuent la boue, qui veulent rappeler des choses négatives, des choses mauvaises. Mais nous, nous ne sommes pas de ceux qui détruisent. Nous ne sommes pas de ceux qui rappellent inutilement des choses anciennes et passées. Nous voulons être de celles et ceux qui construisent avec le Seigneur. Alléluia! Alors bien sûr, s'il y a des choses passées qui ne sont pas résolues, il faut les affronter et le Seigneur nous donne une arme efficace qui s'appelle le pardon, alléluia. Mais nous voulons eh bien, être de ceux qui veulent bâtir, qui veulent construire parce que Jésus a dit lui-même, je bâtirai mon église, alléluia. Le Seigneur est venu pour bâtir, le Seigneur est venu pour construire ta vie, il est venu pour te restaurer et il est venu pour faire une œuvre merveilleuse. Alors le premier point que je voudrais aborder, c'est celui-ci, Jésus en tant que pierre angulaire. Alors, il y a quelques jours en arrière, je parlais avec un frère de la pierre angulaire et je me suis souvenu que dans le pays où j'habite, c'est un pays où voilà, il y a, la terre est meuble, il n'y a pas... Voilà. Et il y a des carrières quand même. Et pour bâtir les maisons, on extrait des grandes pierres et on choisit une pierre qui va servir de fondation. C'est la, elle est cachée, on ne la voit pas, mais c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, une pierre monumentale qui est extrêmement imposante. Et à partir de ses mesures et de ses dimensions, on va déterminer eh bien, la taille de la maison. Vous voyez ? Comprenez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le maçon de l'époque, mais comme aujourd'hui, Louis, en fonction des fondations, il ne peut pas bâtir n'importe quoi. En fonction des fondations, on peut bâtir un château. En fonction des fondations, on peut bâtir une bicoque ou je ne sais pas quoi. Mais Jésus, lui, est appelé la pierre angulaire. C'est-à-dire qu'il définit eh bien, quelque chose eh bien, de précis, un plan déterminé par Dieu. Et ça, c'est quand même la pensée du Seigneur, parce que la Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Et lorsque je choisis de placer ma vie dans le Seigneur, je dois savoir à quoi je dois m'attendre. Quel est le plan que le Seigneur détermine pour ma vie ? Amen. Alors regardez dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3e, voici ce qu'il nous est dit. Il nous est parlé notamment d'être enraciné et fondé dans l'amour. Vous voyez, on a cette même pensée, 3:18, pardon. Voilà. Éphésiens chapitre 3, verset 18, il nous est dit d'être enraciné, fondé dans l'amour, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Vous voyez les dimensions ? Là, vous avez les quatre dimensions de cette pierre angulaire. La hauteur, pardon, on va commencer, la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse jusqu'à toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Et le premier point que je voudrais aborder avec vous dans ce que le Seigneur nous enseigne étant la pierre angulaire, c'est la largeur de l'amour de Dieu. Alléluia. La largeur de l'amour du Seigneur. Et je crois que vous l'avez compris, eh bien, le salut, il est universel. Amen. Amen. Et c'est beau, eh bien, d'être dans une église comme la nôtre et de voir que le Seigneur touche tous les cœurs. Alléluia. Amen. On a des gens qui viennent de Madagascar, des gens qui viennent de Côte d'Ivoire, on a des gens qui viennent d'Ardèche, alléluia, on a des gens qui viennent même de Montpellier, que le Seigneur les bénisse, du Gard, de l'Hérault, de je ne sais pas où, que le Seigneur soit béni, alléluia, il est le sauveur de tous les hommes, amen. Et nous voulons comprendre une chose, c'est que le Seigneur n'exclut personne de son œuvre, de son salut, mais ce salut, il est universel. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il n'y a pas des hommes qui sont exclus de cet amour. Il n'y a pas des hommes ou des femmes qui sont exclus et qui peuvent dire, mais moi, j'en ai trop fait, c'est quelque chose eh bien, qui n'est pas pour moi, l'amour de Dieu, le salut de Dieu. Non, le salut, il est universel, il est pour tous les hommes. Mais il s'accepte, c'est vrai, d'une manière personnelle. Et peut-être que quelqu'un au milieu de nous est touché par l'amour du Seigneur. Peut-être que quelqu'un au milieu de nous est touché par eh bien, la croix, Jésus a donné sa vie pour toi, mais comment être insensible à ce message d'amour merveilleux? Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, alléluia, qui a porté nos péchés à la croix du calvaire. Et nous voulons comprendre que la croix, l'œuvre de Jésus au calvaire, c'est la porte d'entrée pour le royaume de Dieu, alléluia. Nous disions récemment, Jean chapitre 10, verset 9, Jésus dira, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé et il entrera et il trouvera de nouveaux pâturages. Alléluia! On trouve une vie nouvelle, mais celui qui entre, c'est-à-dire celui qui croit, celui qui place sa foi en moi, tu peux avoir eh bien, ta famille chrétienne, tu peux avoir une Bible à la maison, tu peux même venir dans des réunions, ça ne suffit pas. Il faut que tu acceptes Jésus, alléluia. Il faut que tu en fasses ton sauveur personnel. Tu peux avoir des pasteurs dans ta famille ou je ne sais quoi, des missionnaires, gloire à Dieu pour cela, mais le salut, c'est quelque chose de personnel. Je me souviens dans la Bible de cette parabole eh bien, où nous est parlé de ce fils prodigue. Vous savez, c'est un fils qui a tout envoyé balader, l'éducation de son père, rempli d'amour et de vérité. Et il prend la part de bien qui doit lui revenir, il part dans un pays éloigné et il dissipe son bien en vivant dans la débauche. Et puis la pauvreté vient, la famine également, et il se trouve dépourvu au service d'un homme qui lui fait garder des porcs. Il n'est même pas en mesure de manger la nourriture eh bien, que mangent ses cochons. Lui qui est d'origine juive, c'est quelque chose de scandaleux et de misérable pour lui. Et l'Écriture nous dit, étant rentré en lui-même, il dit, voilà ce que je ferai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il va joindre le geste à la parole et il va aller voir son père. Lui, personnellement, il connaît le chemin. Tu connais le chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il sait que son père est prêt à lui pardonner. Et c'est ce qui va se passer. Et il ne va pas le traiter comme l'un de ses ouvriers, mais il va le traiter comme son fils. Alléluia. Amen. Amen. Et ce matin, peut-être quelqu'un a-t-il besoin d'entrer. Eh bien, par la croix, alléluia, et de revenir eh bien, à son Seigneur qu'il aime, et à son Dieu eh bien, qui aime l'humanité tout entière, qui a donné Jésus pour sauveur, mais qui t'appelle personnellement. Amen. Gloire à Dieu. Serais-tu prêt à le faire? Serais-tu prêt à accepter Jésus ce soir, comme ce matin, comme eh bien, ton sauveur? Cela t'appartient. Celui qui entrera sera sauvé. Alléluia. C'est ce qui s'est passé pour le fils prodigue. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Pour Pierre, ça signifie quelque chose. Ça signifie que, puisque je suis sauvé, puisque moi aussi j'ai accepté Jésus, et il le dira, hein, qui dites-vous que je suis? Lui, le premier dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es mon sauveur. Tu es venu me chercher dans mes ténèbres, dans ma misère. Tu as fait grâce. J'ai reconnu mes péchés. Lorsqu'il y a eu cette pêche miraculeuse, j'ai dit, Seigneur, retire-toi de moi, car tu es un homme pécheur. Tu as agi avec grâce dans ma vie. Tu as ouvert un chemin merveilleux en me disant, mais je ferai de toi un pécheur d'homme. Ne crains rien. Alléluia. Tu as renouvelé tes grâces et tes bontés envers moi. Mais c'est quelque chose de merveilleux. Alors, Seigneur, quel rôle est-ce que j'ai à jouer? Et lorsque nous voyons la vie de l'apôtre Pierre, nous voyons que cet homme est intimement imprégné de cette grâce et de cet amour. Il ne va pas mettre la lumière sous le boisseau. Et lorsque, dans une certaine occasion, il va se rendre au temple avec son compagnon Jean, ils servent ensemble le Seigneur, ils vont prier au temple. Il y a là un homme qui est boiteux de naissance. Et cet homme les regarde s'attendant à recevoir quelque chose. Il pense à de l'argent. Mais Pierre, lui, a quelque chose d'autre à lui donner. Il va être guéri. Et il va dire ceci, regarde-nous. Regarde-nous. Ça veut dire, mais regarde ce que le Seigneur a été capable de faire dans nos vies. Et je voudrais peut-être que quelqu'un au milieu de nous puisse se poser la question, est-ce que le salut sur lequel tu as fondé ta vie a rétréci ton cœur ? En disant, c'est bien pour moi, je le garde précieusement, c'est moi, moi et rien que moi. Ou est-ce que ton cœur s'est élargi pour que tu sois à la mesure de la largeur de cette pierre angulaire? Regardez ce qui nous est dit dans 2 Corinthiens. Vous voulez bien me suivre? Enfin, pas sur l'estrade, mais voilà, dans la Bible. 2 Corinthiens, chapitre 6, et le verset... 2 Corinthiens chapitre 6 et le verset 11. Il nous est dit ceci, c'est Paul qui parle, il dit « Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi, vous n'êtes point allé trop au-dedans de nous. » Lui, il prie pour eux, il intercède pour eux, mais il dit mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Amen. Alléluia. Et mes frères et sœurs, il me semble, et lorsque je dis « il me semble », c'est une façon de parler, mais il nous faut avoir un cœur élargi, alléluia. Et l'apôtre Pierre, eh bien, est un homme qui a appris à avoir un cœur large, débordant d'amour. Il ne veut pas être une pierre d'achoppement, il ne veut pas fermer l'entrée du royaume de Dieu à quelques hommes que ce soit, alléluia. Mais il veut les voir être sauvés, bénis, guéris, alléluia, amen. Et cet homme qui était juif, eh bien, va malgré toutes les susceptibilités qu'il aura à l'égard du peuple romain, peuple d'occupation, c'est un petit peu comme un Français qui parle des Allemands pendant la guerre, voyez. Eh bien, le Saint-Esprit va le conduire pour aller dans la maison d'un homme, d'un centenier romain, un militaire, pour lui parler de l'amour de Dieu. Et là, dans cette maison, la maison de Corneille, tous vont saisir le salut qui est en Jésus-Christ. Alléluia, amen. Et mes frères et sœurs, de la même manière, il me semble, et je crois, et je veux affirmer, eh bien que le Saint-Esprit veut nous remplir tout à nouveau, afin que nous soyons de ces hommes, de ces femmes, qui aient un cœur large, alléluia, pour accueillir celui, celle, eh bien, qui a besoin, eh bien, de Jésus. Mardi soir dernier, tandis que la réunion était terminée, les chrétiens étaient rentrés, je parlais simplement avec un jeune qui était là dehors, il y a un gars qui est venu en vélo. J'ai été 22 heures, voyez, mais bon, voilà, c'est la mousson. Hein. Il s'est arrêté. Et ce monsieur, ce jeune, s'est manifesté comme... C'était un musulman. Et prédicateur musulman. Avec son petit calot, sa robe, etc. Et là, il m'a posé des questions. Il croyait dans l'œcuménisme, etc., toutes les religions. Moi, je lui ai parlé de Jésus, je lui ai parlé de Dieu. Alléluia. Et... peut-être que quand on voit un musulman habillé comme il faut, avec la barbe, etc., tac, Al-Qaïda, tac, hein, on a un imaginaire, hein, on a un imaginaire qui est là. Hein. Écoutez, je ne sais pas ce qu'il en a fait, mais je n'ai pas voulu fermer mon cœur à l'égard de cet homme qui a besoin de la grâce de Dieu manifestée en Jésus. Alléluia. Peut-être tenu dans les liens de l'islam, qui sont des liens ténébreux, mais il a besoin de rencontrer Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et vous savez quoi? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Alors je lui ai dit, viens, regarde comment c'est ici. Voilà, là on parle de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Amen. Et que Dieu fasse que nous ayons des bien-aimés qui sortent de l'islam et qui choisissent Jésus. Je suis anti-œcuméniste, œcuménisme. C'est pas possible pour moi de prier avec quelqu'un qui adorerait une statue, qu'on l'appellerait Marie ou quoi que ce soit. C'est pas possible, c'est impossible, parce que mon salut dépend de Jésus seul, alléluia, de Dieu seul, amen, à lui soit la gloire. Alors, il est la pierre angulaire, et il nous invite à la largeur, à avoir de cette largesse et de cette ouverture pour faire connaître le beau nom de Jésus. Mais le Seigneur est également une pierre vivante. Et le Saint-Esprit, au travers de Pierre, nous fait comprendre que oui, Jésus, c'est la pierre vivante. Et cela, nous avons besoin de le comprendre. Dans Hébreux, au chapitre 7 et au verset 25, il nous est parlé de Jésus qui est toujours vivant pour sauver ceux et celles qui s'approchent de lui. Alors, si vous voulez le trouver, eh bien, ça se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7 et au verset 25. Et nous voulons nous souvenir d'une chose, c'est que Jésus est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Voici ce qu'il nous est dit, 7:25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alléluia. Le Père nous a donné au travers du Fils un avocat qui intercède sans cesse pour nous. Alléluia. La porte du ciel n'est pas fermée, et il est celui qui veut nous voir, nous approcher de lui. Il est vivant, il donne la vie, il offre cette communion sur la base du pardon de nos péchés. Nous sommes libérés, nous sommes purifiés, et parce que nous sommes propres, nous sommes purs devant Dieu en vertu du sang qui a été versé, nous pouvons avoir la vie, et la vie nous la recevons de lui qui est vivant. Alléluia. Amen. Ce monde va disparaître. Vous le savez. Et c'est pour ça que parfois l'Église, elle est mal aimée, et les chrétiens sont mal aimés. Moi, je me souviens, il y a quelques années en arrière, je travaillais dans une entreprise au contact de collègues, et il y en avait un qui avait entendu, qui connaissait pertinemment le message de l'Évangile. Il appartenait à la communauté gitane et il connaissait le message de l'Évangile par cœur, mais il ne donnait pas son cœur à Dieu. Et quand il me voyait, je le sentais, on sent ces choses-là. Moi, je marchais avec le Seigneur. J'étais dans l'entreprise, je ne parlais pas de Dieu à tort et à travers. J'ai fait quelques, comme tout le monde, quelques erreurs un petit peu de néophyte, là. Et puis le Seigneur m'a ramené à l'ordre, il a dit, écoute, ce n'est pas le temps de parler. D'abord, avant de parler, vie. D'accord. Mais rien que vivre, être là, me présenter devant cette... Je générais de l'agressivité. De l'opposition, ça vous est jamais arrivé? Pourquoi? Parce que c'est comme au temps de Noé, on émet un jugement. Notre présence, elle est comme du poil à gratter pour certains, parce qu'on est en train de leur dire, t'as pas accepté Jésus, mais celui qui croit au Fils a la vie, on l'a vu hier, mais celui qui ne croit pas au Fils, eh bien n'a pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. Dieu est amour, oui, mais il juge le péché. Et je me souviens, me disait ceci, mais qu'est-ce qu'elle a ta vie plus que moi? Mais elle a rien de plus. Sinon que j'ai Jésus, toi tu l'as pas. Eh oui, c'est tout. Mais mes frères et sœurs, eh bien, nous voulons être de ceux qui comprennent que Jésus est vivant. Alléluia. Il donne autorité à son peuple et il donne la victoire sur la mort. Alléluia. Et sur tout ce qui est capable, eh bien, de faire mourir un homme. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Satan est vaincu, amen. L'Écriture nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire, alléluia. Satan a été vaincu à la croix du calvaire. Nous n'appartenons plus à ce monde. Nous appartenons au royaume de Dieu, alléluia. Le Seigneur a vaincu le monde et tous ses charmes, etc. pour nous faire entrer dans sa gloire, et nous découvrons le véritable amour de Dieu, amen. Et mes frères et sœurs, cela doit nous faire comprendre, mais Seigneur, tu es vivant éternellement, et moi aussi je dois m'inscrire dans cette vision. Vous savez, souvent nous sommes en train de regarder uniquement là, à des problèmes et à des situations qui sont là, et puis parfois on demande au Seigneur, on est humain, de résoudre certains problèmes, et on les voit que là. Mais le Seigneur, il est vivant. Je voudrais vous parler de la longueur de l'amour de Dieu, et nous inscrire dans une temporalité qui n'est pas forcément la nôtre. Vous voyez, Aujourd'hui, on est imprégné par cette mécanique eh bien, des chaînes d'information immédiates et on croit qu'avec Dieu, c'est tout. Mais ce n'est pas comme ça. Regardez, on va aller dans l'Épître aux Hébreux toujours, au chapitre 11. Regardez, et au verset 13e. Au verset 13e, chapitre 11 et le verset 13. Il nous est dit ceci. C'est par la foi. Alors, il nous est parlé de Sarah, de Noé, d'Abraham, etc., qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus, de loin, crus, salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Regardez encore, on revient à notre épître, mais cette fois-ci, la deuxième épître de Pierre. Regardez 2 Pierre, chapitre 1er, et le verset 12. Lui, il comprend que l'œuvre de Dieu n'est pas forcément attachée à sa petite personne à lui. Elle le dépasse. Il est une pierre dans l'édifice. Mais l'œuvre de Dieu continuera après lui. Amen. Et regardez ce qu'il nous est dit. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. 2 Pierre 1, 12. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis par la vérité présente, et je regarde comme un devoir. Aussi longtemps que je suis dans cette tente, c'est-à-dire dans ce corps, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Amen. Ça nous, quand même, doit nous faire travailler. Je parle en tant que parent. C'est bien de donner une éducation à ses enfants, de leur donner le confort, le vêtement, le gîte et le couvert, comme on dit. Mais c'est, voilà. Très bien, mais est-ce qu'on pense à l'éternité? Est-ce que nous sommes en train simplement de bâtir nos vies pour un bénéfice eh bien, immédiat correspondant aux années de cette terre? Ou est-ce que nous avons une vision qui va plus loin que ça? Et l'Écriture nous parle de ces hommes de foi, Abraham, Isaac, Jacob. Je me souviens de ce témoignage de ce pasteur... Monsieur Marc Adier, il était en... Je ne sais pas si tu l'as connu, non, il est décédé déjà, il est parti dans la gloire. C'était un frère, eh bien, qui... un serviteur de Dieu formidable, authentique. Et il nous racontait cela, que avant sa conversion, quelqu'un de sa famille avait accepté le Seigneur et prié pour lui, pour sa conversion et pour que Dieu en fasse un serviteur de Dieu, etc. Et cette personne ne l'a jamais vue parce qu'elle est morte avant. Mais le Seigneur a accompli ses promesses après. Alléluia, amen. Mais c'est encourageant pour nous. Ça doit nous inscrire dans une temporalité, eh bien, qui n'est pas la nôtre, mais qui est celle du Seigneur. L'œuvre de Dieu ne s'arrête pas à des hommes, à des circonstances ou à des époques, parce que tout cela passera. Mais l'œuvre de Dieu... elle est associée à la personne de Jésus, et Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et je voudrais dire peut-être à quelqu'un qui est face à une situation où il a réclamé eh bien, le secours du Seigneur, Jésus est toujours vivant pour accomplir ce qu'il a promis. Il y a un récit que j'aime beaucoup, que vous connaissez dans le livre, dans les évangiles. Lorsque Jaïrus vient chercher Jésus pour que celui-ci eh bien, impose les mains à cette petite fille qui est malade, et pour qu'il la guérisse. En réalité, vous vous souvenez ce qui se passe? En chemin, elle va mourir. Mais il va s'accrocher, Jaïrus. Il va s'accrocher. Il va y avoir des embûches. Il va chercher Jésus. Il y a une femme à la perte de sang et qui est guérie instantanément. Il y a tout le Seigneur quand même, il la cherche. Parce que je me mets à la place de Jaïrus. Oui, c'est bien, mais enfin, c'est pas tout, madame. Oui, mais Jésus prend son temps. Voilà. Et puis, pendant ce temps-là, des messagers lui disent elle est morte, n'importe où ne pas le mettre. Heureusement que Jésus là, ne craint rien, croit seulement, elle sera sauvée. Mais il faut quand même s'accrocher, il y a des moqueurs dans la maison, et puis il fait sortir tout le monde. Et on aurait pu dire, mais c'est trop tard. Mais Jésus monte dans la chambre, il impose les mains à la petite, et elle est ressuscitée d'entre les morts. Alléluia, amen. Mais mes frères et sœurs, il est la pierre vivante, amen. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ce matin, accroche-toi à la parole de Dieu, accroche-toi à Jésus, alléluia, et persévère dans la foi à ce Dieu merveilleux eh bien, qui t'aime. Je voudrais continuer en disant ceci, donc il est la pierre angulaire, il est la pierre vivante, il est la pierre choisie, il est la pierre choisie. Je l'ai dit tout à l'heure, que voilà, ces mots doivent induire en nous des comportements et une foi qui sont à la mesure de ce qu'est Jésus. Amen. C'est-à-dire que nous sommes, puisque nous sommes en Jésus-Christ, nous devenons participants de sa nature à lui. C'est-à-dire que ce qu'il est, nous le devenons. Amen. Et il nous est dit eh bien, qu'il est une pierre choisie. Alors je me suis posé la question, à quel moment, Seigneur, eh bien, dans ta parole, nous voyons que tu as été eh bien, particulièrement choisi. Eh bien, je me suis souvenu que la voix du Père a retenti dans les cieux lorsque le Seigneur a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». À quel moment ça a été dit, ça? Au moment où Jésus se fait baptiser. Vous vous souvenez? Lorsque le Seigneur vient à Jean-Baptiste, pourtant on s'y oppose, c'est pas moi qui ai... c'est moi plutôt qui ai besoin d'être baptisé par toi, pourquoi est-ce que tu viens à moi? Mais le Seigneur se rend obéissant en toutes choses. Et je vous rappelle, on est dans un édifice. On est participant de l'œuvre de Dieu. C'est pas à l'aglo ou au parpaing ou les frères, hein, voilà, hein, Ronald, de dire hey, Ronald, moi je voudrais bien être là, tu vois. Non, non, mais imaginez qu'il y ait des pierres comme ça, qui puissent parler, qui veulent choisir leur place. Mais ce n'est pas elles de choisir leur place. Nous, on a affaire à un architecte, à un divin maçon qui sait très bien où on doit aller. Alléluia. Amen. Et nous voyons que la pierre choisie, c'est le Seigneur qui a choisi de se rendre obéissant en toute chose. Et je voudrais vous poser cette question, puisque nous avons ce privilège d'être appelés des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à entrer dans une construction merveilleuse qui est la construction de l'œuvre de Dieu. Et l'Église, c'est l'œuvre de Dieu. Je voudrais vous dire, de tout ce qui sera établi, qui est établi sur cette terre, tout passera. Tout passera. Une seule chose ne passera pas, ce que Dieu a bâti, c'est-à-dire son Église. Alléluia. L'Église, c'est la seule chose qui, ayant commencé ici-bas, se retrouvera dans le ciel pour l'éternité. Alléluia. Mais c'est important, l'Église. Amen. Mais mes frères et sœurs, c'est important d'aimer son Église, d'être fidèle eh bien, à son Église, de comprendre que eh bien, c'est là où mes enfants, vos ados, vos jeunes vont entendre des choses qu'ils n'entendront jamais à BFM ou sur Netflix. C'est là où ils vont entendre parler de Jésus. C'est là où ils vont être baptisés dans le Saint-Esprit. C'est là où ils vont naître de nouveau. C'est là où ils vont se convertir. C'est là où ils vont entendre le conseil de Dieu pour leur vie. Alléluia. Et nous, on a besoin eh bien, de se rendre obéissant, de le comprendre, de choisir, eh bien, de faire la volonté de Dieu, d'être des gens qui ont de la profondeur. Parce que l'autre dimension, je vous ai parlé de largeur, de longueur, mais cette autre dimension, c'est d'être des gens qui sont profonds. Des gens qui sont profonds. Lorsque je lis la vie de l'apôtre Paul, je m'aperçois que lorsqu'il est à la fin de sa vie, il dit « Tous m'ont abandonné ». Bizarre, hein? L'homme de Dieu qui a fondé des églises, l'homme de Dieu qui a écrit, l'homme de Dieu qui était en bénédiction pour des multitudes, dira, même des collaborateurs, ils m'ont abandonné. Pourquoi? Il y a de la persécution. Pourquoi il y a de la souffrance? Pourquoi? Parce que Paul, c'est un vieillard lorsqu'il écrit. Il est en prison. On dit, mais lui, c'est plus l'avenir. On l'a oublié, tous m'ont abandonné. Par contre, il y a quelqu'un qui va être profond. On n'aurait pas cru. Parce que dans le livre des Actes des Apôtres, c'est un petit garçon, un jeune homme, au chapitre 16 et au verset 1er, il est un peu timide. Il y avait là un disciple qui s'appelait Timothée. Et on rendait de lui un bon témoignage quand même. Et il nous est dit, Paul voulut l'emmener avec lui et il va devenir un de ses collaborateurs. Je vous ai dit, on n'aurait pas cru que ce garçon aurait pu faire quelque chose avec le Seigneur. Parce que Paul, quand même, lui rappelle, ce n'est pas un esprit de timidité, Timothée, que Dieu nous a donné. Timothée, ce n'est pas le genre de personne qui s'impose. Ce n'est pas le genre de personne qui parle fort. Il est un petit peu timide, ce garçon-là. Il aime Dieu. Mais il est timide et il préfère se mettre en retrait. Mais sous l'action du Saint-Esprit, il va devenir un autre homme. Et Paul lui dira, mais l'Esprit de Dieu nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Et il va lui dire, l'apôtre Paul, souffre avec moi. Et je voudrais vous dire, tout jeune homme qu'il est, sortant d'une famille sans histoire, mais ayant rencontré Jésus et serrant depuis son plus jeune âge la parole de Dieu, il ne va pas avoir honte de s'associer à l'apôtre Paul. C'est un homme qui va être profond. Vous savez, aujourd'hui, nous avons parfois des gens qui nous racontent toutes sortes de révélations, de problèmes, etc. Mais lorsqu'on parle de fidélité au Seigneur, il n'y a plus grand-chose. Et lorsque je parle de fidélité au Seigneur, je parle de fidélité également à ses frères et sœurs. Être fidèle en amitié, fidèle au service de Dieu. Être non pas des gens qui sont avec de grands discours, mais légers, mais des gens qui sont fidèles. Ben, mon frère, ma sœur, tu souffres. Tu passes par une épreuve. Mais moi, je vais être avec toi. Je vais. Et ce n'est pas que des mots. La profondeur de l'amour de Christ. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Jésus était profond. Et c'est ça qui nous touche, oui ou non ? Amen ? Lui, le Fils de Dieu, qui que l'on soit, d'où que l'on vienne, le Seigneur prend le temps avec nous. Amen, oui ou non ? C'est merveilleux de savoir, je ferme la porte de ma chambre, je peux prier le Seigneur. Imaginez que le Seigneur dit, oh, mais moi, je n'ai pas le temps de rester avec toi. Non, mais vous sentez le Saint-Esprit qui vous parle, alléluia. Et peut-être le Seigneur qui vous a dit, mais tu en as mis du temps à venir quand même, parce que moi je t'attends. J'ai des choses à te dire, à te communiquer, à te révéler pour fortifier ta foi. Alléluia. Et nous voyons la profondeur de l'amour du Seigneur, de celui qui connaît tes pensées les plus intimes, tes souffrances, tes angoisses, peut-être tes frustrations, et qui te dit, mais je vais les lever, je veux te guérir, je veux te laver, je veux te pardonner, je veux te restaurer, à toi la gloire. Alléluia. Amen. Mais c'est merveilleux d'avoir un sauveur comme cela, si grand et si merveilleux. La profondeur de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu qui s'intéresse à nos vies. On n'a pas le temps d'en parler, mais le Seigneur a... Vous connaissez cette femme qui vient auprès de Jésus pour amener du parfum. Et on dit, mais pourquoi elle fait ça ? Pourquoi elle fait ça ? On aurait pu vendre ce parfum et le donner aux pauvres. C'est qui c'est qui a dit ça ? C'est Judas. C'était le trésorier de l'équipe, lui, il était voleur, nous dit l'Écriture. Mais Jésus a vu qu'on avait fait de la peine à cette femme. Cette femme, elle était venue au milieu des disciples, elle était là, c'est l'Église. Et là, il y a quelqu'un qui n'est pas tellement droit et qui lui fait de la peine. Ben, le Seigneur n'a pas fait comme s'il n'avait pas vu. Le Seigneur prend sa défense et il lui parle, il la restaure, il la renouvelle. Alléluia. Elle a bien fait, parce qu'elle a compris ce que je suis venu faire. Il y a quelques jours en arrière, j'ai ressuscité son frère Lazare, qui était dans le tombeau, et maintenant, elle est en train de comprendre que pour que ces choses se fassent, il faut qu'il paye la dette. Je vais mourir, et elle a compris, et elle est en adoration devant ce que je vais faire. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Mais c'est merveilleux. Dieu te comprend. Dieu te connaît. Dieu connaît les émanations de ton cœur, ce que même tu es incapable de dire, il le comprend, la profondeur de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Je termine en donnant ce dernier point qui concerne la pierre précieuse. Vous savez, Jésus, c'est la pierre précieuse, mais surtout lorsqu'on voit dans la parole de Dieu, c'est qu'il n'a pas été considéré comme quelqu'un de précieux, mais plutôt on l'a rejeté. Oui ou non ? Méprisé, homme de douleur, de souffrance, il fallait que ces choses se fassent. Il fallait que le Seigneur souffrit la mort pour nous. Il fallait que il soit mis au rang des coupables. Il fallait que il soit rejeté. Mais nous voulons voir, en dépit de toutes ces choses, un sauveur glorieux qui s'est chargé de notre péché, de notre honte, pour nous rendre précieux. Alléluia. Nous avons trouvé dans le sacrifice de Christ celui qui nous rend notre valeur. Alléluia. Et je voudrais dire ceci, tu es précieux aux yeux de Dieu. L'amour de Dieu te rend précieux aux yeux du Seigneur. Alléluia. Et il nous incombe à nous également de rendre précieux à nos vies ce qui a de la valeur pour Dieu. Qu'est-ce qui compte dans nos vies ? Dans l'Évangile selon Luc au chapitre 16e, à partir du verset 20, il y a une parabole qui parle de Lazare. Alors, ce n'est pas le même Lazare, que j'ai cité tout à l'heure, et d'un riche, c'est une histoire. Ce riche, il est riche, on a l'impression que Dieu est avec lui. Il a des habits blancs de fin lin, il y a de la joie, il y a dans sa maison, tout va bien. Quand il meurt, ça c'est que l'apparence. Parce que quand il meurt, c'est pas avec le Seigneur qu'il se trouve. Mais c'est exactement à l'opposé. Il se trouve en enfer. Il souffre cruellement dans une flamme, nous dit la Bible. Et on s'aperçoit que sa vie n'était faite que d'apparence. Il y avait une apparence. Par contre, il y avait Lazare. Et Lazare, cet homme était, je reviens sur ce terme profond, mais il avait choisi ce qui avait de la valeur aux yeux de Dieu. Le nom de Lazare, c'est « L'Éternel est mon secours ». Vous avez chanté tout à l'heure « Mon secours est en toi ». Vous avez fait devant le Seigneur cette confession disant « Seigneur, ce qui compte dans ma vie, c'est ton secours ». Ce n'est pas le secours du voisin, de la voisine, le secours de je ne sais quoi. Mais Seigneur, c'est sur toi que je compte. Comme le psalmiste dira, mais mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Seigneur, je place ma foi, ma confiance en toi. Il n'a rien d'autre que ça. C'est une histoire, c'est une parabole. Hein, mais le Seigneur l'utilise pour nous faire comprendre certaines choses. Au travers d'images fortes, il n'y a que des chiens pour le soulager, qui lèchent ses ulcères. Mais l'Éternel est son secours. Et parce que sur cette terre où il a souffert, il a fait de son Seigneur toute sa joie, ce qui était le plus précieux, lui aussi, il est précieux aux yeux du Seigneur. Et il est consolé dans le sein d'Abraham, nous dit la parole de Dieu. Alléluia, amen. Frères et sœurs, l'Écriture ne nous dit absolument pas qu'il est interdit d'avoir quelque richesse que ce soit, mais nous sommes dans un monde qui nous pousse à toujours à comprendre que c'est ça la vie réussie. C'est ça la... Mais vous savez, il y a un trésor où des voleurs ne pourront jamais entrer. Le trésor qui est dans le ciel. Alléluia. Amen. Et je crois qu'il est important, lorsqu'on remplit notre cœur de Jésus, que nous puissions rendre eh bien, précieux ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Et rechercher ce qui plaît au Seigneur. Et je voudrais peut-être poser cette question, à moi comme à vous. Seigneur, est-ce que je fais de mes moments avec ta parole les moments les plus précieux de la journée? Est-ce que, Seigneur, je recherche assidûment les dons spirituels? C'est les perles précieuses, ça, c'est les pierres précieuses que Dieu a données à son Église. Voilà, visité par le Saint-Esprit. Alléluia! Pour te servir, Seigneur. Amen! Alléluia! Parce que ce qui est précieux, ça ira dans le ciel. La hauteur, eh bien, de la pierre angulaire. Alors, je voudrais qu'on puisse dire, Seigneur, je veux bâtir ma vie. Amen. Alléluia. La grâce de Dieu. Et si quelqu'un, et chacun d'entre nous, peut s'examiner, Seigneur, est-ce que je suis vraiment, est-ce que je n'ai pas fait preuve de légèreté? Si tu as fait preuve de légèreté, mais écoute, repens-toi devant le Seigneur. La grâce de Dieu, elle est toujours là. Et le Seigneur, il veut te rendre profond. Alléluia. Amen. Qu'il n'a jamais été léger un jour. Et le Seigneur nous a changé, alléluia, transformé, choisi, précieux. Seigneur, à toi la gloire, alléluia, mais nous voulons bâtir sur toi notre vie. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que l'œuvre de Dieu, elle demeure éternellement. Amen. Amen. Vous voulez bien qu'on prie le Seigneur quelques instants ?